Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, c'est le Club des idées du grain. Une fois n'est pas coutume, on a vu samedi dernier à la télévision une ancienne ministre se défendre d'avoir conduit une réforme. Je n'ai jamais mené de réforme de l'orthographe, c'est une fake news, s'est défendue Najat Vallaud-Belkacem face à la journaliste qui lui reprochait d'avoir fait enlever le « i » au mot « oignon ». Alors d'habitude, c'est plutôt le contraire, la réforme est revendiquée par celles et ceux qui nous gouvernent. Y associer son nom, c'est inscrire de manière indélébile son passage au pouvoir, c'est apporter la preuve de son efficacité. Regardez tout ce que nous avons fait, par exemple venu dire François Hollande au Parti Socialiste après avoir quitté l'Élysée. Regardez tout ce que nous allons faire, dit désormais son successeur. Emmanuel Macron promet de réformer le Code du travail, si possible d'ici la fin de l'été, de réformer la vie politique avec une loi de moralisation qui sera présentée avant le premier tour des législatives. Il faut aller vite pour tenir compte du principe, à vérifier d'ailleurs, que les principales réformes doivent être menées dans les premiers mois de la mandature. Mais est-ce vraiment un passage obligé? La réforme, il n'y a que ça de vrai? C'est la question que nous posons ce soir à trois des membres de notre club. Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, vous enseignez à Sciences Po. Philippe Manière, bonsoir.
Bonsoir.
Consultant, par ailleurs chroniqueur régulier pour le magazine Challenge, et Ludivine Bantini, bonsoir.
Bonsoir.
Historienne, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Rouen. Et je précise que cette émission, nous l'avons enregistrée mercredi, c'est-à-dire il y a 2 jours.
Ma volonté pour le pays, c'est dès le début de lancer des grandes réformes. Dès le début.
L'heure de vérité. Éric Woerth a officiellement présenté ce matin le projet de réforme des retraites du gouvernement.
Nous avons pensé que 62 ans était au fond l'âge le plus efficace, à la fois socialement et à la fois économiquement.
À mes yeux, une base solide pour une réforme que je.
Et je vous le dis du fond du cœur et avec conviction, on peut réformer sans abîmer et on peut moderniser sans détruire.
Économique et sociale sous lequel nous vivons, que nous devons réformer de fond en comble.
La réforme du marché du travail, la simplification du droit du travail que je porte dans mon programme, la transformation de notre formation professionnelle et formation continue, parce que c'est fondamental pour affronter un monde en transformation, et la transformation de l'école. Et je dois dire que l'école et la formation, c'est pour moi le cœur
de la bataille. Que de ne faire qu'une réforme au rabais sur le Code du travail, c'est exactement ce qui, depuis des années...
Concernant la réforme du Code du travail, elle est indispensable. Elle avait démarré d'ailleurs avec une certaine ambition et elle est arrivée naturellement rognée sur plusieurs
sujets. Je le ferai dans des lois classiques. Une autre, la réforme du droit du travail qui vise à le déconcentrer en quelque sorte, à donner plus de place à l'accord d'entreprise, je la ferai par ordonnance.
Voilà, un petit mix signé Lise-Marie Barré qui réalise cette émission, mix dans lequel on a volontairement mis énormément de fois le mot réforme, même si c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le discours politique. Est-ce que les uns et les autres, vous diriez qu'il y a peut-être une forme d'obsession française pour la réforme, ou en tout cas pour la promesse de réforme, Philippe Manière?
Oui, c'est vrai que la France a cette particularité qu'on parle de réforme et surtout de la nécessité de la réforme depuis... au moins un quart de siècle, et je dirais même maintenant pas loin de 40 ans. Alors, je dis que c'est une particularité parce que dans beaucoup d'autres pays, on fait plus de réformes et on en parle moins. Et la particularité française a une conséquence qui est très fâcheuse, c'est que la réforme est devenue une épée de Damoclès. Et une épée de Damoclès qui jusqu'à maintenant ne tombe pas puisqu'on fait peur aux gens avec l'idée que la réforme est nécessaire, qu'elle est indispensable, qu'on ne peut pas s'en passer. Réforme étant généralement entendue comme étant porteur de mauvaises nouvelles, on y reviendra sans doute, mais la plupart des réformes qui ont été faites et surtout qui restent à faire ne sont malheureusement pas des réformes qui sont particulièrement délicieuses. Et donc quand on vous dit du matin au soir depuis 40 ans il faut réformer, on va pas s'en sortir si on ne réforme pas, et que on ne réforme pas, parce que l'essentiel des réformes dont on sait maintenant depuis pas loin de 40 ans qu'elles doivent être faites n'ont pas été faites, eh bien ça crée quelque chose d'extrêmement désagréable en termes de morale des troupes.
Donc on réformerait mieux si on en parlait moins?
Je ne sais pas si on réformait mieux si on en parlait moins, mais ce qui est clair, c'est que si on ne réforme pas, il vaut mieux pas en parler. Et je pense, moi, qu'il faut réformer et qu'il faut le dire clairement, mais le faire rapidement et pas au bout de 40 ans. Et je crois que c'est une des données du pessimisme français, un des déterminismes du pessimisme français, que cette idée que la réforme est nécessaire, conjuguée au fait qu'on ne la fasse pas ou très peu.
Ludivine Martini.
Oh, je suis pas d'accord, mais en fait, ce qui est déjà gênant avec ce mot, c'est que c'est un piège. Enfin, ce mot est profondément dénaturé. Il a été profondément altéré parce que historiquement et d'un point de vue politique, le mot réforme, associé à l'idée de réformisme, il est lui-même lié à l'idée de progrès social, à l'idée de bien-être social, d'épanouissement collectif et individuel.
Or, est-ce que je peux juste donner la définition du Larousse avant de vous laisser poursuivre? Alors, il y a le Larousse, on aurait pu prendre un autre dictionnaire, mais enfin, c'est celle que j'ai trouvée. Réforme. Changement de caractère profond, radical, apporté à quelque chose, en particulier à une institution, et visant à améliorer son fonctionnement. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce mot-là n'est plus entendu de cette manière?
Oui, bon, il y a d'ailleurs la définition du dictionnaire, vous avez bien fait, Hervé, de la rappeler, mais il y a aussi un enjeu politique derrière tout ça. Il y a une culture politique qui veut que la réforme, en effet, permet une amélioration du bien-être social. Donc je pense qu'il faudrait d'ailleurs systématiquement, enfin, sauf pour celles et ceux, comme c'est le cas de Philippe, à l'instant, se prononce pour ces mesures qui sont en fait des atteintes profondes, et des réformes, il y en a, et je demande depuis 40 ans, et très grave. Je pense qu'il faudrait systématiquement les caractériser comme des contre-réformes. Voilà. À mes yeux, je ne suis pas du tout la seule à le penser. Ce sont des contre-réformes, ce sont des mesures de régression sociale. Et le mot, évidemment, encore une fois, est piégé. D'ailleurs, on l'a bien entendu dans les quelques extraits que vous avez projetés. Il est sans cesse associé à des termes qui eux-mêmes sont flatteurs. La modernisation, la simplification, la transformation, etc. La modernisation, ça fait en effet 40 ans qu'on en entend parler. Hein. Laurent Fabius en parlait déjà, il faut réformer pour la modernité, etc. Enfin, je ne pense pas que ce soit une obsession française, puisqu'il me semble qu'il faudra y insister aussi et faire le lien entre le niveau international et le niveau national. Les réformes structurelles du FMI, du Fonds monétaire international, qui ont des enjeux assez similaires à ceux que l'on connaît notamment ici, sont des réformes profondes et assez violentes la plupart du temps pour les populations.
Donc vous, Ludivine Mancini, vous dites plutôt finalement si ce terme de réforme a été dénaturé, c'est plutôt parce qu'on a trop réformé, enfin dans un certain sens, plutôt que pas assez, peut-être comme le laissait entendre Philippe Manière. On va poursuivre bien sûr cette discussion, mais je voudrais entendre sur cette question également Anastasia Colosimo. La réforme, on en parle beaucoup, on n'en fait pas beaucoup, on en fait trop.
Non, déjà, je dirais que bien avant la manière dont la question se pose depuis 40 ans, la question de la réforme dans l'histoire de France, ça commence en gros au XIIIe siècle, Philippe le Bel, la monarchie administrative, et il y a un mouvement permanent entre des vraies poussées réformistes, Louis XIV, Napoléon, De Gaulle. On peut pas quand même minorer le fait, la création de la sécurité sociale, plus tard ensuite la décentralisation, etc. Donc des poussées d'un côté réformiste et de l'autre côté des réactions très fortes justement et des choses qui viennent empêcher la volonté effectivement d'essayer de simplifier, de moderniser, etc. Je pense que ce mouvement par ailleurs, il est très lié à la manière dont se construit la France et dont elle s'est toujours construite, c'est-à-dire avec une administration qui est extrêmement forte, un État en fait qui est extrêmement fort. Et parce que cet État est très fort, qu'il est complexe, et qu'il est quelque part même par rapport à d'autres pays un peu tentaculaires, évidemment la complexité le réformer, à lui faire prendre de nouvelles orientations, à essayer en fait de l'adapter aussi aux changements sociaux, rend effectivement les virements et les revirements compliqués.
Et pourtant l'État assume lui-même l'idée qu'il doit se réformer, puisqu'il y a des ministères de la réforme de l'État qui se succèdent depuis un certain nombre d'années. Avant, on était sur la réforme administrative, je crois. Maintenant, ça s'appelle la réforme de l'État. Le dernier, par exemple, à avoir porté cette fonction-là, même s'il a été peut-être un peu trop discret en la matière, c'était Jean-Vincent Placé qui assumait ce rôle en tant que secrétaire d'État. Est-ce qu'il y a une forme de contradiction dans l'affichage qui est fait, Philippe Manière, d'un État qui dit, il faut que l'État se réforme, et d'une difficulté, justement, à mener ces réformes?
Le politique a un rapport très particulier avec la réforme. Vous l'avez dit dans l'introduction, beaucoup de gens, en particulier quand ils sont aux affaires, n'ont qu'une ambition, malheureusement, c'est d'attacher leur nom à une réforme pour qu'on parle de la réforme ceci ou la réforme cela. C'est une sorte d'accomplissement du point de vue de la carrière politique. Et en même temps, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire sans dire « et en même temps », le politique n'a jamais davantage à réformer. C'est pour ça que je voudrais quand même insister sur ce point auprès de Ludivine, parce que mettez-vous à la place d'un politique. S'ils annoncent, les gens qui nous dirigent depuis longtemps, des choses qui vous paraissent à vous, et à juste titre, désagréables, vous dites antisocial, j'irai pas jusque-là, ça n'est pas pour le plaisir, puisque ça ne peut que leur causer des ennuis avec le peuple et avec éventuellement la rue dans un pays qui n'a pas une fibre démocratique parlementaire particulièrement développée comme c'est le nôtre. Donc, s'ils finissent par réformer, pas assez à mes yeux, c'est parce que c'est une nécessité. Alors, c'est peut-être le moment de faire une toute petite, je vais être bref là-dessus, mais nomenclature, typologie de la réforme. Pourquoi faut-il réformer ? Il y a des cas, la raison est absolument exogène, elle est fatale. Je prends un exemple, la réforme des retraites. Enfin, je veux dire, un enfant de 3 ans peut comprendre que dès lors qu'on vit 20 ans de plus, que c'était le cas il y a 80 ans, il est bien évident qu'on ne peut pas garantir le même âge de départ à la retraite aux retraités, sauf à surcharger les actifs, puisque tout simplement, dans notre système, que je ne conteste pas, ce sont les actifs qui payent pour les retraités. Donc, si les retraités vivent 15, 10, 20 ans de plus, peu importe, un nombre significatif d'années en plus, alors vous devez réformer le système de retraite, parce que vous avez le choix entre ne rien faire et écraser les actifs sous le poids du financement d'inactifs toujours plus nombreux, ou au contraire, faire partir les gens un peu plus tard à la retraite, de telle manière que des gens restent plus longtemps dans la carrière, ce qui est possible puisqu'ils sont en meilleure santé bien plus longtemps, et de telle manière que les actifs ne pourront pas sous le poids du financement des inactifs. C'est aussi simple que ça. Ça ne me paraît pas là vraiment une question d'opinion, c'est une question factuelle. On ne peut pas ne pas réformer, ou bien alors on fait vivre les actifs dans des conditions très difficiles. Donc, point de vue social, la réforme des retraites est nécessaire.
Si cette nécessité était si évidente que cela, ces réformes, elles pourraient se faire de manière beaucoup plus simple.
Les réformes des retraites, il y en a eu 2 ou 3 ou 4, dont certaines relativement courageuses.
Mais pas assez.
Je reviens sur ce que je disais sur l'épée de Damoclès. Ça fait très longtemps que ça dure. On l'a fait par petits bouts. C'est la réforme tranche par tranche. Frédéric Bastiat, grand économiste français, disait quand il faut couper la queue du chien, c'est moins cruel de le faire d'un coup que tranche par tranche. Nous, on fait la réforme tranche par tranche. Ce qui est infiniment cruel.
Sur les retraites du secteur public, par exemple. Non, je mets de l'eau dans votre moulin, je crois qu'on dit comme ça. Sur la réforme des retraites dans le secteur public, la loi apparaît, il y a une première mouture de la loi en 1995, la loi passe en 2010. Donc il y a 15 ans d'aller-retour, de on y va un peu, on n'y va pas vraiment, etc. Donc il y a quand même là-dessus, et effectivement une question, c'est-à-dire à partir du moment où on fait une réforme, il faut la faire.
Si on ne la fait qu'à moitié, on irrite tout le monde, ce qui est bien compréhensible, et on n'obtient pas le résultat. Donc, évidemment, d'ailleurs, tous les pays qui ont fait ce type de réforme l'ont fait de manière relativement radicale, après une longue concertation, c'est bien le moins, mais de manière relativement radicale, de telle manière que le moral des troupes remonte après qu'on a réglé le problème. Je finis juste ma nomenclature. Vous avez donc ces réformes pour des raisons exogènes qui me semblent incontestables. Vous avez des réformes, alors je dirais qui sont peut-être plus contestables, je me tourne vers Ludivine, parce que ce sont des réformes qui correspondent à une analyse, j'allais dire technique, mais qu'on peut contester. Moi, je suis absolument convaincu qu'il y a des réformes à faire en France de réduction du poids de la sphère publique, parce que là encore, on a un problème, c'est que la sphère marchande ploie sous le poids de la sphère non marchande. À la fin des années 90, au tournant des années 2000, il y avait 1 million d'agents publics en moins en France. Je ne crois pas qu'on était sous-administré. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais mettez-vous à la place, si vous regardez simplement le dispositif, comment ça boucle, mettez-vous à la place de gens qui financent ça, c'est-à-dire la sphère marchande, le poids est beaucoup plus lourd. Donc on peut plaider, je sais bien que je ne serai pas forcément, j'en porterai pas forcément face à Ludivine sur ce sujet, mais on peut plaider, me semble-t-il, très sérieusement, que passer un certain point, il faut réformer parce qu'on a été trop loin. Et puis pour finir, il y a les réformes, Ludivine, tout de même, qui sont des réformes positives, qui sont des réformes sociales. Je prends un exemple, les carrières longues. Quand on a fait la réforme des retraites la dernière fois, ou l'avant-dernière fois, je ne me souviens plus, parce qu'il y en a eu tant, on le disait à l'instant, eh bien on en a profité pour permettre aux gens qui avaient commencé tôt et qui n'étaient pas respectés dans le dispositif précédent pour avoir commencé tôt, de partir plutôt à la retraite pour introduire une dose de justice. Donc toutes ces réformes se justifient. Et encore une fois, si on les fait ou si on pense qu'il faut les faire, du point de vue de ceux qui sont au pouvoir, c'est parce qu'on pense qu'on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas de bénéfice politique à le faire.
Je remarque quand même que dans votre nomenclature, la troisième réforme, c'est la réforme positive, ce qui peut laisser aussi entendre, Philippe Manière, que les deux premières ne sont pas forcément positives, du coup, dans votre esprit.
Elles ne sont pas agréables. Elles sont, à mon avis, infiniment positives, mais elles ne sont pas agréables.
Alors, Ludivine Bantigny, que pensez-vous de cette nomenclature ? Est-ce que vous y adhérez ?
Non, bien sûr, mais en fait, on a un gros problème de vocabulaire, je pense. Et derrière les mots, bien évidemment, il y a du politique. Quand Philippe utilise l'euphémisme pas agréable, il y a des gens derrière. Enfin, c'est ça. Moi, je trouve que dans
c'est bien ce que je dis, c'est pas agréable aux gens.
Non, mais c'est un euphémisme. C'est bien sûr que c'est antisocial. Je veux dire, il faut penser. Pour préparer cette émission, je me suis plongée dans les chiffres. Alors, parlons-en des bénéficiaires. Mais dans les chiffres, voilà. Il y a un suicide en raison du travail par jour en France. Un suicide par jour. Voilà. Les burn-out, le stress au travail. Voilà. Quand vous dites, bien sûr, voilà, donc le vocabulaire de la contre-réforme, parce que moi, je ne veux pas employer ce mot réforme, pour moi, encore une fois, c'est un contresens. Donc, Les contre-réformes dont vous parlez, elles sont toujours associées au vocabulaire de la nécessité historique, voire presque de la naturalisation. Hein. Ça fait à peu près 40 ans que c'est associé à cette idée que c'est dans la nature des choses, dans l'ordre des choses, et même la nature au sens quasiment physiologique du terme, puisque à propos de la contre-réforme des retraites, vous évoquez...
La démographie.
Eh bien, moi je vous propose autre chose. Je vous dis que c'est tout aussi compréhensible à un enfant de 3 ou en tout cas 6 ans, j'en discute assez régulièrement avec les miens, que étant donné qu'il y a un taux de chômage, de précarité, de sous-emploi pour les jeunes et une série de générations, et que d'un autre côté on propose aux gens de travailler jusqu'à 67 ans, etc., dans des conditions de pénibilité qui malheureusement ne sont pas suffisamment abordées ici, parce que la plupart du temps autour de la table, les invités ne connaissent pas directement dans leur chair ces conditions de pénibilité. Il y a énormément de chômage, donc pourquoi ne pas réduire drastiquement le temps de travail? Pourquoi ne pas considérer aussi qu'il faut réviser la manière dont on conçoit dans nos sociétés le travail? Pourquoi est-ce que le travail au sens laborieux du terme, parce qu'il y a d'autres manières de travailler, des manières gratuites et désintéressées de travailler, mais délestons-nous, débarrassons-nous de cette vision terriblement assignante du rapport au travail, travaillons moins pour travaillons tous et faisons autre chose de nos vies. Par exemple, faisons de la menuiserie ou toute autre chose qui nous permettrait d'être davantage polyvalents.
C'est la pensée magique, parce que moi je demande que ça, de faire de la menuiserie pendant mes loisirs, mais c'est pas ça qui va financer la retraite des retraités.
Ne vous énervez pas, Philippe.
Je m'énerve pas,
mais si.
Je réagis.
Mais c'est pas davantage la pensée magique que vous. D'ailleurs, la preuve en est que vous avez beau avoir contre-réformé depuis 40 ans, enfin c'est un vous assez générique,
oui,
évidemment.
Merci, j'étais modérément aux affaires. Hein.
Oui, mais vous voudriez qu'il y en ait davantage des contre-réformes.
Oui.
Mais pour autant, ça a toujours été fait d'ailleurs au nom de la lutte contre le chômage, et le chômage n'a cessé de progresser. La précarité n'a cessé de progresser, et rien que depuis 2008, pourtant une période où on a beaucoup parlé du mot réforme, le chômage a augmenté pour les catégories A, B et C de l'INSEE de 150%. Donc c'est considérable. Ce qui montre bien qu'en fait, sous le discours de la lutte contre le chômage, les raisons des contre-réformes sont tout autres, et elles sont liées, et là je pense qu'il faut vraiment y revenir historiquement et économiquement, elles sont liées à la baisse vraiment du taux de profit entre les années 60 et 70. Les profits ont diminué de moitié. Et donc, il fallait trouver un autre moyen de rentabiliser les investissements, etc. Ça, je pense que c'est fondamental. Si on n'y revient pas, si on ne revient pas sur les raisons de ces réformes, notamment du marché du travail, on ne comprend pas la logique économique sous-jacente. Et j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus.
Alors, juste pour pas que la discussion tourne uniquement entre un dialogue entre Mania et Ludivine Bantini, pour qu'Anastasia Colosimo, quand même, fasse aussi un peu partie de cette discussion. Je vous, d'abord, votre réaction à ce que vous venez d'entendre, et sur cette distinction entre réforme et contre-réforme. C'est vrai que les mots sont importants. Est-ce qu'on y met derrière aussi la réforme? Pour vous, c'est quelque chose de neutre, ou forcément utiliser ce terme?
Non. Alors déjà, je pense que c'est pas du tout neutre, parce que même si historiquement, quelle est la grande réforme qu'on connaît dans notre culture, dans notre civilisation? C'est la réforme protestante. D'ailleurs, quand on dit la réforme, c'est la réforme protestante. Et donc, qui porte quand même avec un R majuscule. Mais d'ailleurs, quand on dit la réforme, tout le monde comprend de quoi on parle. Et la contre-réforme, d'autant plus, en France. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'à mon avis, dans la réforme même, il y a toujours cette idée de modernité et de rupture avec l'ancien monde. Et donc, c'est jamais un terme neutre. C'est-à-dire que les conservateurs ne réforment pas. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle les conservateurs.
Ça veut dire que si on s'oppose à une réforme, quelle qu'elle soit, c'est qu'on prend le risque d'être traité d'anti-moderne, de conservateur, de réactionnaire.
Évidemment, enfin, le conservatisme, c'est ça, c'est de dire mais ne touchons pas à l'équilibre qui existe, parce qu'en touchant à cet équilibre, on ne sait pas ce qui va se passer. En gros, si on est un peu généraliste.
Mais ça peut vouloir dire, pardonnez-moi, je vous interromps à nouveau, mais que ce terme-là peut aussi être utilisé pour discréditer ceux qui s'opposeraient à des mesures qu'on va qualifier de réforme.
Bien sûr, évidemment, et d'ailleurs on voit bien que c'est toujours la dynamique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent réformer, et ceux qui sont contre ces réformes, on les traite de réactionnaires, conservateurs, on leur dit mais vous ne voulez pas vous adapter à la modernité, vous ne voulez pas épouser la mondialisation, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas, et c'est d'ailleurs, on les renvoie à la négativité, à la haine, etc., au ressentiment, enfin bon, ça c'est, je pense que c'est un vocabulaire qui est assez admis si on essaie de regarder, et derrière en fait ce débat qu'il y a entre Ludivine Bantini et Philippe Manière, il y a quand même une question qui est très intéressante, et qui est très intéressante particulièrement aujourd'hui en France, c'est-à-dire qu'en fait les réformes sont menées généralement par des experts. On pourrait dire, enfin par des experts, en tout cas par l'élite.
Préparé par des experts.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que...
Mené par des gens qui ont une légitimité démocratique. Sinon
non, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une élite, c'est l'élite réformatrice, et il y a une dynamique qui est très intéressante, parce que cette élite réformatrice, elle dit, mais en fait, vous avez peut-être, typiquement sur l'Europe, par exemple, l'élite réformatrice va dire, peuple... On voit bien que vous avez l'impression de souffrir de l'Europe, mais en fait, vous ne souffrez pas de trop d'Europe, mais de pas assez d'Europe, par exemple. Et donc, ça se joue sur la connaissance. Et ce qui est très intéressant, c'est... Alors, l'Europe, pourquoi est-ce que c'est un très bel exemple? Parce que, par exemple, on a voté contre le traité en 2005, ensuite il est passé sous une autre forme. Et donc, il y a quand même l'idée de savoir, justement, cette réforme, à quel prix elle passe. Quand on dit, mais en fait, nous, on sait mieux ce qu'il faut pour ce pays. Justement, le côté désagréable. Et ici, il y a une question à laquelle je n'ai pas de réponse, et qui est complexe, qui est de dire, est-ce qu'on peut aller contre la volonté du peuple pour gagner 2 points de croissance? Parce que la question, elle est là. C'est-à-dire, qui sait, en fait? Qui sait réellement ce qui est bon pour ce pays? Sur les questions économiques, cette question est d'autant plus complexe qu'on essaye de nous expliquer depuis quand même des années que l'économie est une science dure. C'est tout sauf une science dure. Ça, on a pu s'en rendre compte. Et donc, du coup, enfin, ou en tout cas, on voit bien que la marge d'erreur est phénoménale en économie. Et que tant qu'on n'a pas expérimenté sur, avec les données qu'on a, c'est quand même très compliqué de savoir des choses précises. Et donc, du coup, c'est vraiment qui a la connaissance, qui sait comment il faut réformer, comment on peut réformer. Et est-ce que quand même cette réforme peut se faire aux dépens d'une adhésion populaire? Je pense que la question reste entière.
Alors je trouve justement très intéressante cette façon que vous avez de formuler la question. Est-ce qu'on peut aller contre la volonté du peuple pour gagner 2 points de croissance, comme vous l'avez dit, Anastasia Colosimo? Philippe Manière.
Non, ce qui est intéressant, c'est que la problématique que vient d'exposer Anastasia Colosimo est parfaitement juste. Elle est là encore très franco-française.
Oui.
Dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres pays, pour ne pas dire la quasi-totalité des autres, il peut y avoir des oppositions à des réformes qui peuvent sembler désagréable, mais l'idée que on va faire une réforme après laquelle la situation sera meilleure, même si la réforme peut être un peu désagréable, c'est une idée qui est communément admise dans tous les pays qui ont été éclairés par raisonnement hypothético-rationnel et l'enseignement du raisonnement, tout simple. Et donc, prenez la Suisse, par exemple. La Suisse, à de nombreuses reprises, les Suisses ont refusé, par exemple, la diminution du temps de travail, ce qui étonne beaucoup les Français. Je ne dis pas que les Suisses ont raison. Je dis qu'on ne peut pas dire que partout dans le monde, les peuples souhaitent la diminution du temps de travail. Et quand vous regardez autour de nous, je ne vais pas aller chercher des exemples exotiques qui me feraient traiter d'affreux libéral, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande. Encore qu'en Nouvelle-Zélande, ça a été un gouvernement de gauche qui a fait la réforme. Mais regardez la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas, même l'Italie à certains égards. Voilà des pays où on a fait des réformes qui étaient du type de contre-réforme qu'évoquait tout à l'heure Ludivine, ce qui se discute, parce que si au terme de la contre-réforme, il y a un bienfait qui est incontestable aux yeux des peuples, et c'est le cas dans tous ces pays-là, même si parfois par exemple, vous avez, pardonnez-moi de vous rappeler, parce que c'était votre argument tout à l'heure, le taux de chômage dans tous les pays que j'ai évoqués, sauf l'Italie, est entre 3 et 5%. Donc, dans ces pays-là, le chômage était très élevé, il y avait la même crise identitaire et la même impasse budgétaire, et il y a eu une sorte de consensus social pour que, à la lumière de ce qu'apportaient les experts, mais qui était ensuite endossé par les politiques, puis approuvé par le peuple, eh bien, on fasse ce type de réforme. Et à l'arrivée, devinez quoi, vous avez des pays qui sont plus heureux et où il y a moins de chômage. Mais tout ça, c'est fait sur un mode infiniment plus consensuel. Cette opposition expert-peuple est très particulière en France. Elle n'existe pas dans beaucoup d'autres pays où on écoute les experts, ensuite les politiques débattent et puis le peuple admet.
Mais est-ce que ça veut dire juste d'un mot, Philippe Magnat, est-ce que ça veut dire juste d'un mot que pour vous, c'est davantage un problème de méthode, de manière de mener les réformes que de fond
des réformes?
Non, je pense
que c'est un problème de culture politique. Je pense que la culture politique française reste profondément iréniste, profondément empreinte de pensée magique et incapable de se mêler facilement au raisonnement élémentaire. Pour le meilleur et pour le pire, hein. Mais en l'occurrence, c'est plutôt pour le pire.
Et je pense que c'est vraiment une question de préférence collective. Alors moi, je vais prendre un exemple encore plus exotique, mais par exemple, la méthode de la terre brûlée en Russie. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a certaines cultures qui donnent lieu à certaines manières de réagir. On voit bien l'aspect complètement sacrificiel qu'il peut y avoir chez les Anglais, par exemple, ou l'idée que tout d'un coup, le peuple entier va se sacrifier, va se serrer la ceinture pour une idée...
Mais en vue d'un bienfait futur.
En vue d'un bienfait futur. Effectivement, en France...
Qu'est-ce que vous faites de la révolution française? Enfin, je veux dire, on peut aussi considérer
non, mais c'est
que.
Non, mais là, c'est la révolution, justement. La révolution, c'est complètement autre chose. C'est on renverse la table. Moi, je vous parle du moment où, effectivement, dans d'autres pays, l'Angleterre, l'Allemagne, tout le monde s'est dit à un moment, on va serrer notre ceinture aujourd'hui parce que la réunification a été compliquée. Il faut qu'on gagne. L'Allemagne était très mal partie. Et effectivement, quand on écoute les Allemands, ils disent, on est prêt à serrer la ceinture parce qu'on veut être les meilleurs. Qui est un truc qui n'est pas du tout français. Parce que je pense que, par ailleurs, il y a non seulement la place de l'État, qui est encore une fois immense, mais en plus, il y a une politisation qui est très forte. Et il y a aussi un concept de la bonne vie en France. En fait, on est assez résistant à l'idée de la performance, de l'efficacité, etc. Je pense que c'est...
Le prix à payer pour ça, c'est qu'il y a des gens qui sont sur le bord de la route.
Ah bah, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant au niveau, justement, culturel. C'est-à-dire, c'est sans doute cette culture-là aussi qu'il faut essayer de modifier.
On n'a pas suffisamment le sens du sacrifice en France, Ludivine Bartigny ?
Non, mais c'est intéressant dans la manière même dont on est assigné à penser de telle ou telle façon. C'est-à-dire que non, mais c'est vrai. C'est si on pense pas de cette façon, qui est pourtant élémentaire, on est complètement irrationnel. Mais moi, pour reprendre d'ailleurs l'argument qui a été avancé tout à l'heure par Anastasia, c'est-à-dire si on n'est pas pour ces contre-réformes là, on est considéré comme conservateur ou conservatrice. Mais moi, par exemple, je vous ai parlé d'une autre réforme. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui sont contre ces mesures et qui font des grèves pour ça, qui vont dans la rue, qui font aussi des sacrifices, d'ailleurs des sacrifices financiers, etc., pour une vie meilleure. Et ils proposent aussi autre chose. Réduire drastiquement le temps de travail, c'est une proposition, c'est une réforme qui serait vraiment un bienfait pour le coup. Je ne pense pas qu'on puisse mesurer le taux de bonheur des peuples et la manière dont, en général, justement, on leur pose la question. Est-ce que vous voulez réduire le temps de travail? Mais c'est en général dans une perspective qui est sinon absolument catastrophiste. Si on ne fait pas ça, si on n'allonge pas drastiquement...
Le débat politique est pacifié en Suisse.
Je vais vous lire ce que disait Alain Minc dans La machine égalitaire en 1987. Parce que je pense qu'il y a un berceau dans les années 80 qui est fondamental. Il dit qu'il faut baisser considérablement le salaire réel. Il faut une baisse brutale du pouvoir d'achat. Il dit... Hors de cette vérité, point de salut. Donc ça, c'est une assignation à penser de telle ou telle façon, de cette façon-là. Si le devoir des salariés est de mettre fin à la seule inégalité vraiment dramatique, à savoir le chômage, alors cela passe par l'acceptation de cette baisse brutale du pouvoir d'achat. Voilà. Et donc, en fait...
Non, mais là, vous citez un extrémiste, hein, en quelque sorte.
Pas du tout, parce qu'en fait, justement...
Ces termes ne sont pas ceux qu'on a utilisés.
Vous parlez beaucoup de la supposée spécificité française. Mais que je sache, encore une fois, ces réformes dites structurelles du FMI, hein, ce qu'on a appelé... à partir des années 80, le consensus de Washington. C'est-à-dire tous ces critères qui sont appliqués d'ailleurs un peu partout dans le monde et dans les pays en particulier, qui se sont soulevés d'ailleurs contre ces réformes. La Tunisie, la Syrie, c'était vraiment contre les mesures extrêmement brutales qui ont été appliquées par le Fonds monétaire international. La discipline budgétaire, les baisses considérable de dépenses publiques et de disparition de services publics, les privatisations à tout va, l'ouverture aux capitaux étrangers, la dérégulation du droit, tout ça au nom de la réduction du coût du travail, parce que voilà, maintenant c'est comme ça aussi qu'il faut parler, le coût du travail. Et derrière le coût du travail, il y a des vies, il y a des existences. Moi, ce qui me gêne, c'est que précisément les experts dont parle Anastasia, en général, bien sûr que ça ne leur pose pas de problème de travailler jusqu'à 70 ans. Aucun problème. Et c'est ce qui est vraiment très perturbant dans ce système, c'est que celles et ceux qui produisent les réformes n'en sont jamais atteints. Et c'est aussi la même chose d'ailleurs pour la moralisation supposée de la vie politique, en fait.
Anastasia Colosimo, Ludivine Bartigny vient de citer Alain Minc, 1987, vous disiez, hein, son ouvrage. Vous êtes venu avec un ouvrage encore plus ancien, Alain Perfit, Le mal français, c'est ça, 1972. En quoi ça peut servir de support à la discussion qu'on est en train d'avoir et la réflexion qu'on est en train d'avoir sur la réforme?
Mais je pense que cette question, quand même, expert-peuple, elle n'est pas une question fermée, quoi. Enfin, il n'y a pas de réponse à ça. Et là où, pour le coup, je rejoins Ludivine, c'est que, ou en tout cas, je ne sais pas, elle me dira si je la rejoins ou pas, c'est qu'il y a quand même une difficulté énorme et qu'on ressent très bien, c'est que les experts réfléchissent en macro et ils disent en statistique. C'est-à-dire, ils disent, en gros, exactement, il faut rehausser la croissance, il faut rehausser la croissance potentielle, il faut baisser le chômage. Et on a cette batterie de chiffres et derrière, effectivement, il y a des gens. Et je pense que c'est aussi l'oubli de ça qui fait que les réformes sont très difficiles à accepter à un moment. Il y a vraiment une vraie question, c'est-à-dire est-ce que on peut seulement être justement dans cette société du tout économique, ou en plus franchement, c'est-à-dire le nombre d'années d'études qu'il faut pour comprendre comment réformer, qu'est-ce qu'il faudrait faire, l'économie, etc. est complètement démentiel. Et donc du coup, je pense que le gap entre justement cette l'élite et le peuple est très très fort. Alors pourquoi
vous
est-ce que
pas
perfide
sur
là-dedans
perfide. Ah ouais,
alors,
voilà.
Pourquoi
ouais.
est-ce que perfide là-dedans c'est intéressant, c'est
parce sauf si c'est votre livre de chevet du moment et que ça n'a rien à voir avec la discussion du jour. Hein,
non, peut-être. Pourquoi est-ce que perfide là-dedans c'est intéressant, c'est parce que perfide représente complètement une tendance qui existe en France, qui aujourd'hui est incarnée par Emmanuel Macron, mais qui est la nouvelle société. C'est-à-dire, il y a un mal français, effectivement, il y a un idéalisme français, il y a une manière de ne pas voir le réel, de ne pas s'aimer assez. Il y a quelque chose en France qui fait que nous n'arrivons pas à rentrer et à épouser la modernité, la mondialisation, etc. Mais ce qui est intéressant en même temps dans cette démarche-là, c'est de dire, en fait, et c'est là que, quelque part, le retournement est intéressant, c'est que le conservatisme, il est de ce côté-là, en fait. C'est de dire, mais il y a une société, il y a un ordre du monde qu'on ne peut pas changer, auquel il faut qu'on s'adapte, et pour que rien ne change, il faut que tout change. Et en fait, c'est une espèce de démarche d'adaptabilité permanente à quelque chose, à des événements exogènes. Et le risque de ça, c'est pour le coup la perte du politique. Et encore une fois, on ne donne pas de réponse, mais peut-être qu'économiquement, ça a plus de sens de rallonger le temps de travail, mais peut-être qu'en fait, on n'a pas envie, et ça, c'est la décision politique, qui en fait... qui est de dire ce que disait De Gaulle, l'intendance suivra, c'est-à-dire l'économique c'est pas une question. Mais je veux dire que toutes ces questions-là se posent encore et elles sont, à mon avis, encore très très vivantes et très vives, et on l'a vu quand même pendant les élections.
Philippe Manière.
Oui, non, je voudrais revenir un instant sur les experts qui résonnent au macro, qui seraient pratiquement des sans-cœur, qui ne seraient jamais touchés dans leur chair face au peuple. Je caricature un peu ce qui a été dit. Alors, bien sûr, on peut toujours le dire. En même temps, n'oublions pas que ces réformes sont faites dans l'objectif d'atteindre un bienfait supérieur. Et dans ce bienfait supérieur, il y a des gens qui bénéficient. Je reprends l'exemple des réformes des retraites. Si vous ne réformez pas les retraites, alors, mécaniquement, vous êtes obligé d'accroître le poids du financement des inactifs par les actifs. C'est impossible de faire autrement. Encore une fois, ça ressortit à la règle de Troyes. Donc, si on refuse la pensée magique, on sait que soit on demande à ceux qui partent à la retraite ou ceux qui sont déjà à la retraite de partir un peu plus tard ou de gagner un peu moins pour ceux qui sont partis, ou bien alors, il n'y a pas 50 solutions. Soit les actifs travaillent plus longtemps, soit les inactifs gagnent moins, soit les actifs financent plus. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, faire une réforme qui permet aux actifs de ne pas avoir un poids aussi élevé sur les épaules, ça n'est pas une réforme au bénéfice de je ne sais quels experts sans cœur, c'est une réforme au bénéfice des actifs. Or, on nous dit du matin au soir que la France est un pays où les jeunes sont maltraités, où les non-qualifiés sont maltraités, ce qui est vrai. Si vous voulez que les jeunes et les non-qualifiés soient maltraités, ce type de réforme est positif.
Alors, mais ce type de réforme, pardonnez-moi Philippe Manière, mais ces réformes-là, elles ont été faites. Des réformes, des retraites, il y en a eu quand même énormément.
Mais on l'a dit tout à l'heure, tranche par tranche.
Et donc, le régime des retraites était excédentaire l'an dernier. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est compliqué à comprendre. C'est-à-dire, je prends l'exemple des retraites, mais par exemple, les premières réformes qu'entend mener le gouvernement Macron. Réforme du droit du travail et réforme pour une moralisation de la vie politique. Ce sont des sujets qui ont fait l'objet de lois pendant le dernier quinquennat.
Non, mais sur la réforme,
ça sert à quoi de réformer quelque chose?
La moralité politique, c'est une réforme complètement dingo, parce qu'on pense abolir le péché originel ou bien alors le caractère faible de l'homme, selon que vous croyez ou pas, par décret, ce qui n'a strictement aucun sens.
On peut faire 500 réformes. Mais surtout, il y a une réforme.
Ce ne sont pas les lois, ce sont les mœurs qui sont en cours et qui sont en jeu, et je ne crois pas du tout à ce type de réforme. Pour reprendre votre autre exemple, la réforme du droit du travail, encore une fois, on peut penser ce qu'on veut, mais c'est un fait que la réforme du droit du travail que voulaient mettre en œuvre Manuel Valls et François Hollande, au terme de, je crois, combien, 400 ou 500 jours, enfin, on n'en finissait plus de pré-réforme, est arrivé à 5 ou 10% ou 20%, si on est très pessimiste du point de vue de Ludivine, de ce qui était prévu. Et donc, je ne dis pas encore une fois, c'est technique ce que je dis, si vous pensez que cette réforme était bonne, comme on n'en a fait que 20%, il n'est pas illégitime d'y revenir. Mais je voudrais juste dire un dernier mot, puis après, on parlait tout à l'heure de perfide. Je pense qu'il est important d'inscrire l'analyse de perfide dans la lignée d'autres analyses qui ont été faites, par exemple par Crozier, sur la société et les organisations bloquées, hein, qui ont un caractère très bureaucratique de nos entreprises publiques comme du public. Et même de remonter jusqu'à Tocqueville sur l'ancien régime et la Révolution, pas le Tocqueville de la démocratie. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans une vision assez monarchique et assez lyrique de l'action politique, qui est modérément compatible avec une réforme technique, fût-elle mise en œuvre au bénéfice de gens qui méritent qu'on s'intéresse à eux.
Et là où je vous rejoins complètement, c'est que pour le coup, coup, là où la réforme serait quand même vraiment, vraiment, vraiment utile, c'est par rapport à la complexité de notre administration, par rapport au ce qu'on appelle le millefeuille administratif. Sur le fait qu'il y a une inflation législative en nombre de lois, les articles dans les lois, on passe facilement de 100 à 300, 400 articles de loi à la fin. Cette complexité-là, évidemment, pour le coup, elle est bloquante. Parce que si vous voulez administrer, vous ne pouvez pas avoir autour de vous 50 000 codes et ne pas savoir à chaque fois que vous faites quelque chose, si vous pouvez le faire, dans quelle mesure, etc. Ça, sur cette question-là, le mal français dont parle Alain Perfide, c'est surtout celui-là. C'est la complexité administrative complètement démentielle qui est en France et qui, effectivement, joue comme un blocage. Aussi parce qu'il y a une discussion...
d'une réforme, pour le coup.
Non, mais aussi parce qu'il y a une discussion permanente et parce qu'on veut toujours inclure, effectivement, et on veut faire plaisir à tout le monde.
Et c'est ce que,
sans doute
justement,
qu'il faudrait dire que la réforme ne peut pas faire plaisir à tout le monde.
C'est justement ce qu'est censé gérer les ministres de la réforme de l'État, la simplification administrative. Il y a d'ailleurs eu des choses qui ont été faites ces dernières années. Enfin, on voit bien que ça reste encore un objectif. Je ne sais pas si c'est un objectif qui est véritablement sincère, mais en tout cas, ça reste toujours affiché comme ça. Peut-être pas d'ailleurs dans le dernier gouvernement. Je ne crois pas avoir vu la question de la réforme de l'État, mais il faudra vérifier. Ludivine Bontini, on parle beaucoup de réforme. On n'entend plus beaucoup aujourd'hui le terme de révolution. J'ai lu dans La Croix il y a deux jours la politologue Dominique Schnapper qui disait notamment ceci. La France cultive une mythologie révolutionnaire, mais reste très conservatrice. Elle devrait choisir résolument d'être réformiste. Qu'est-ce que vous pensez de ce constat-là ?
Encore une fois, dans la bouche de Dominique Schnapper ou sous sa plume, c'est choisir d'être réformiste, c'est au sens où on l'a entendu depuis le début de cette émission, c'est-à-dire ce que disait à juste titre Anastasia, c'est-à-dire que l'économie doit être structurante et dominer le politique. Ça, c'est absolument fondamental. Bien sûr que si. Et voilà, juste pour reprendre quand même un élément, et ensuite on pourra venir rapidement à la question de la révolution, mais quand on dit faire des heureux avec ces réformes, je sais pas, Macron, il a proposé des contre-réformes. La loi Macron qui autorise le travail du dimanche, le travail dit en soirée, parce que c'est un euphémisme pour pas dire travail de nuit, la libéralisation des professions réglementées, enfin, demandez aux gens, aux caissiers et caissières de votre supermarché s'ils ont envie de travailler en soirée, de travailler jusqu'à 22h au minuit et ensuite d'avoir encore une heure de transport pour rentrer chez eux. Non, ils ne le veulent pas, mais ils sont ou elles sont tenues de le faire parce que, encore une fois, on leur tient un discours catastrophiste et puis s'ils ne le font pas, eh bien, hop, c'est dégagé, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, alors, voilà, pour aller dans le sens de votre question, mais elle mériterait, Hervé, toute une émission, c'est que je pense, alors voilà, pour être du coup extrêmement synthétique et forcément caricatural, et je vais m'attirer les foudres d'un certain nombre d'auditrices et d'auditeurs, mais tant pis, je pense en fait que dans ce monde qui est dominé par la loi du profit, de la compétition et du capital, pour dire les choses avec de petits mots, eh bien, en effet, les réformes au sens progressiste du terme deviennent de plus en plus impossibles. Deviennent de plus en plus impossibles parce qu'elles sont en contradiction avec la logique même de la loi du marché. Voilà. Et je pense que dans ce système-là, on peut difficilement, on peut avoir des mesures qui amélioreraient la vie, mais pas de manière profonde et structurelle. Et donc, je pense, en effet, qu'il faut, revoir les choses de manière très profonde et parler de révolution. Pour moi, ça signifie pas le grand soir, hein, c'est pas du tout une mythologie, le grand soir, mais je pense que ça passe d'abord par une sorte de révolution anthropologique, c'est-à-dire de changer nos référentiels, de changer nos valeurs, de changer nos critères. Comme j'essayais de le dire avec l'exemple tout à l'heure du travail, on n'est pas tenu de s'user au travail, on peut faire d'autres choses de nos vies, voilà, de nos existences.
Et d'ailleurs, vous vous souvenez du titre du livre programme de notre actuel président de la République, Emmanuel Macron, Révolution, justement. Oui. Voilà aussi, peut-être que les termes méritent d'être définis. Juste un dernier mot sur le sujet d'Anastasia Colosimo.
La question de la révolution anthropologique, je la trouve justement extrêmement complexe. Premièrement, parce qu'en France, on a un souvenir de la révolution qui est quand même extrêmement douloureux. Je ne crois pas que la révolution soit souhaitable dans un pays qui n'est pas très violent, mais qui peut, je pense, très vite basculer dans une violence totale et absolue. Et ensuite, il y a une autre question, c'est que pour le coup, moi, je suis plutôt pessimiste anthropologiquement. Je ne pense pas qu'on puisse faire de révolution anthropologique. Et je pense qu'à chaque fois que dans l'histoire des pays ont essayé de faire une révolution anthropologique, c'était une révolution à marche forcée et plutôt coercitive.
C'est une forme d'oxymore, une révolution anthropologique, hein, pour être très honnête. Non, juste, je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que disait Ludivine. Ça n'est pas vrai qu'on ne peut plus faire de réformes sociales. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas tout faire et qu'il faut établir des priorités. Si on veut que les gens partent à la retraite tôt, il faut savoir que c'est au prix du bien-être des générations actives qui vont devoir payer plus cher. Si on veut pouvoir financer, et je trouve que c'était une très bonne réforme, le départ à la retraite précoce de gens qui ont fait des carrières longues, alors on ne peut pas en même temps permettre aux gens de partir à la retraite aussitôt qu'ils le faisaient quand on vivait 10 ou 15 ans de moins, etc., etc. Donc je pense que c'est juste une question de choix et moi je suis parfaitement sensible, évidemment, au fait qu'il y a des populations qui méritent un respect particulier, mais si on veut justement s'occuper bien d'elles, alors il ne faut pas dispenser l'argent avec, par exemple, les allocations logement et tout le financement du logement qui, en France, c'est documenté, ne sert pas à grand-chose et qui coûte des dizaines de milliards. Donc il faut faire des choix, c'est aussi ça la réforme, c'est faire des choix pour viser ce qui est le plus rentable socialement.
La dictature de l'horloge fait qu'il faut bien s'interrompre à un moment donné. Ce sera donc sur cette parole de Philippe Manière que nous allons achever cette discussion qui mériterait évidemment, comme à chaque fois d'ailleurs, d'être poursuivie. Merci en tout cas à tous les trois, Ludivine Brantini, Anastasia Colosimo et Philippe Manière. Cette discussion, vous pouvez la réécouter sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Vous pouvez également télécharger cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux, plus de 600 000 podcasts par mois. Voilà, on est très contents. Merci à toute l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Mélanie Chalondon, Fanny Richet, Isolde Sicard, Louise Fuseau, émission réalisée par Lise-Marie Barré, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan. On se retrouve lundi à 18h20 dans le prolongement d'ailleurs de la réflexion de ce soir, puisque nous poserons la question suivante. Faut-il individualiser le droit du travail? Dans un instant, le rappel des titres, mais juste avant, le sommaire de ping-pong. Bonsoir Mathilde Serrel.